Les colloques du Collège de France.
Je donne la parole à Rémy Labrusse. Donc son titre est La peinture, le lieu, le musée. Nous sommes en plein vraiment chantier du travail d'Yves Bonnefoy. Il est directeur d'études à l'école des autres études en sciences sociales. Son domaine est pratique et théorie des arts contemporains, mais c'est peu dire son œuvre en partant du titre de sa chaire, puisque ses recherches portent notamment sur Giuseppe Pennone, qui sera reçu à l'Académie de Beaux-Arts dans 15 jours, Miro, bien évidemment, la conscience critique de l'orientalisme à l'époque moderne, sur politique et poétique de la préhistoire, vous voyez quel champ de travail, et surtout pour notre colloque, sur les rapports entre les arts et la poésie. Donc je suis heureux de vous donner la parole.
Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si ça, oui, je pense que ça marche. Je partirai en fait du dernier terme du titre que j'ai proposé. Donc je parlerai, j'insisterai avant tout sur le musée et naturellement les deux autres termes, le lieu et la peinture, en procéderont progressivement. Je me situerai dans le sillage, ce faisant, d'Alain Madeleine Perdria, qui a abordé le premier ce sujet de front, Yves Bonnefoy et le musée, dans une publication donc des actes du colloque de Cerisy, Yves Bonnefoy, poésie, recherche et savoir, qu'avaient publié Patrick Ney et Daniel Lançon. Et je rendrai hommage aussi à Patrick Ney lui-même, qui a repris le même thème donc dans un long article de 2016 sur le musée chez Yves Bonnefoy. En fait, je dois aussi beaucoup à Jérôme Tellot, qui m'a permis il y a un an, dans un colloque autour de son propre travail, de commencer à aborder cette question. Et puis, d'ailleurs, à tout un ensemble de jeunes chercheurs, ou plutôt chercheuses, je pense à Jeanne Dorn, à Simona Policino, qui donnent de l'avenir à cette œuvre, qui lui donnent son avenir, en travaillant là aussi sur ce même thème des rapports entre peinture, musée et poésie. Alors, le musée, donc, sur lequel je voulais insister, c'est un thème essentiel, disait Alain-Madeleine Perdria, sous le signe, effectivement, de cette première phrase de « Sur la peinture et le lieu » en 1960. Donc, je la cite, « Il n'y a pas de livre que je voudrais davantage écrire qu'un récit des musées du monde. » Mais, aussi essentiel soit ce thème, il est aussi paradoxal, et je cite toujours Alain-Madeleine Perdria qui disait « C'est peut-être un faux sujet, car finalement peu élaboré par Bonnefoy lui-même, sinon donc dans ce texte de 1960, au détour de quelques récits en rêve, mais peu nombreux, et tardivement donc dans le livre, petit livre à vrai dire, Le Grand Espace, un ensemble de fragments retravaillés pour une sorte de synopsis de 1993 consacré au musée du Louvre. On peut y ajouter quelques remarques adjacentes dans des entretiens, notamment celle-ci en 2009, je cite « Le Grand Espace », donc ce livre que je viens d'évoquer, « fut l'expression de mon rapport très ambivalent avec l'idée même de musée. » Alors, ambivalence, on peut imaginer que ce terme était employé un peu rapidement par Bonnefoy à ce moment-là, dans un échange oral. Il est souvent convoqué par ailleurs par les interprètes du poète pour caractériser sa poétique de l'image. Et c'est sous son signe, disons, que je voudrais continuer à partir de là la réflexion. C'est que je voudrais prendre au sérieux, disons, cette question de l'ambivalence. En l'occurrence, le désir et le soupçon s'associent dans un balancement qu'a relevé encore Alain-Madeleine Perdria entre l'attraction pour le musée, qu'on trouve dans les récits en rêve, et sa dénonciation dans des textes analytiques ou dans des entretiens. Cette ambivalence n'affecte pas seulement l'idée, comme le disait Bonnefoy, mais aussi la pratique concrète du musée, qui parfois apparaît comme un lieu flottant, détaché des usages du monde, et donc propice à la rêverie, et de l'autre comme un lieu au contraire trop coordonné, rationalisé, hostile à la préservation de l'épaisseur indécidable du sens dans les œuvres. Et c'est pourquoi s'opposeraient donc le musée des récits en rêve et le musée des commentaires sur l'état du monde contemporain. De fait, le premier, donc ce premier musée des récits en rêve, il est plutôt de l'ordre du refuge chez Bonnefoy, même si le poète y éprouve toujours le sentiment que ce refuge est un leurre. Je pense à un fragment de La vie errante, précisément intitulé Le musée. Je le cite, « J'ai trouvé refuge dans un musée. Dehors, le grand vent mêlé d'eau règne seul désormais, secouant les vitres. » Il y a donc toujours cette présence inquiétante d'un dehors qu'aurait ignoré donc, le refuge dans le musée. Quant au musée critiqué, c'est un espace de pure extériorité, lui au contraire, un pur dehors, qu'on parcourt vite avec un sentiment en lui du reflux de la vie et dont finalement on rejette, et même parfois avec colère, le principe et le fonctionnement actuel. Sur ce dernier plan, les métaphores qu'a relevé Patrick Ney sont nombreuses. C'est un espace d'échouage des œuvres sur une grève aride pour des barques, ces mêmes œuvres, qui ne demanderaient pourtant que la pleine mer. C'est une autoroute, dit-il ailleurs, c'est un hall de gare, c'est un espace d'imposition, je cite, d'une historicité qui va à volo. Alors, le propre de l'ambivalence est de rendre chacun de ces deux pôles indissociables l'un de l'autre. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister, en supposant, disons, que le consentement au rêve dans la poétique muséale de Bonnefoy est conditionné par l'intégration en son sein d'un savoir critique. Et réciproquement, que la vibration même de cette critique, son urgence, sa colère parfois, tirent leur intensité des profondeurs fantasmatiques dans lesquelles s'enracine sa pensée, mais à vrai dire notre pensée, du musée dans le monde occidental. Ce faisant, les valeurs qui sont en jeu, dans un système ambivalent, tendent à se renverser incessamment. L'attraction onirique pour le musée, soumise à la critique, se revêt de négativité. Et inversement, le rejet analytique du musée dans les entretiens acquiert une forme de positivité. Cette interdépendance donc du désir et du soupçon, ce renversement incessant de l'un dans l'autre, sont précisément ce qui me semble se formuler en filigrane dans les réflexions de « Sur la peinture et le lieu ». Nous sommes en 1960, avant le plein basculement du monde muséal dans la société du spectacle. Il ne s'agit donc pas pour Bonnefoy à ce moment-là de dénoncer l'assèchement de la vie des œuvres par leur transformation en objet de consommation culturelle de masse. En revanche, la dimension de hasard qui est le propre du musée y apparaît comme l'ombre portée, l'ombre révélatrice, à vrai dire, de sa promesse d'idéal. Deux propositions coexistent dans le texte et accompagnent tout son déroulement. La première de ces propositions consiste à identifier le lieu muséal avec le projet même de la peinture occidentale et plus spécifiquement avec le projet de la peinture italienne depuis la Renaissance, qui est, je cite, « de compromettre dans notre monde l'idée qu'il sent trop lointaine ». Et Bonnefoy met une majuscule au mot « idée ». Dans sa pensée, il s'agit, on le sait bien, d'une tentation fondamentale de l'esprit, génératrice de désirs à jamais insatisfaits, dans la mesure où l'ici et maintenant s'y trouve aboli par l'appel vers des horizons aussi proches qu'inaccessibles, des horizons proches sans doute, mais toujours sur l'autre rive. Corrélativement et comme fatalement, le lieu naturel de cette chose mentale qu'est la peinture italienne du moins de la Renaissance, est alors l'espace du musée, du reste progressivement inventé à la même époque et au même endroit, cette Italie du milieu du XVIe siècle, si l'on en croit donc les hypothèses formulées par Christophe Pomian sur l'histoire du musée. Et lui-même, donc, ce musée devient la négation progressive d'un lieu vivant au profit d'un lieu de paix parfaite de l'esprit, au fur et à mesure que les musées gagnent en ampleur, n'en finissent pas de s'éloigner de la réalité, de se recomposer dans l'enfilade toujours plus longue, toujours plus labyrinthique de leurs salles attachées les unes aux autres. Emblématique de ce déni de la vie qu'implique le rêve de perfection dans les salles de musée et le réseau d'interdictions qui ne cesse de s'accroître au cours de leur histoire, ne pas toucher, ne pas manger, ne pas parler ou ne pas trop parler, etc. Ce faisant, la destination muséale de la peinture occidentale moderne est comme la conséquence de l'imaginaire métaphysique qui s'y déploie et qui la détache de l'immédiat. Et réciproquement, de même que dans l'image se perpétue le désir frustré que la représentation devienne présence, de même dans le musée se déploie indéfiniment l'attente que le non-lieu se fasse vrai lieu, au sens où l'a suggéré Patrick Ney. Mais il y a une seconde proposition, et c'est que le musée est aussi l'espace, ou plutôt le dispositif, où cette pulsion déréalisatrice se révèle à elle-même et rassemble donc les conditions de sa propre compréhension. En apparence, le texte de « Sur la peinture et le lieu » de ce point de vue est un peu ambigu, précisément, car il distingue deux catégories de musées, à propos de la peinture italienne, ceux qui établissent entre les œuvres et leur lieu de conservation des connivences profondes, c'est une citation, à savoir les vieux petits musées italiens installés dans d'anciens bâtiments de pierre et qui, ces pierres, précise Bonnefoy, sont comme natales pour les peintures qu'elles reçoivent. Et ceux, au contraire, où, je le cite toujours, les liens se distendent entre l'œuvre et le lieu, et ce sont les musées neufs d'Angleterre et surtout des États-Unis. Mais cette opposition, au fond, n'est que de surface, car dans les deux cas, quoique par des voies différentes, ce qui advient est toujours un rappel de l'imaginaire métaphysique à la finitude concrète et donc une mise au jour de l'essentiel manquement de l'être dans les images. En quelque sorte, un savoir moral s'opère à niveau égal dans la perception de la dépendance des peintures à l'égard de leur territoire natal, c'est l'Italie, ou dans l'évidence de leur soumission aux aléas de l'exil, et c'est l'Amérique. Dans les deux cas, ce que l'espace concret du musée met en mouvement, c'est une tension entre des arts épris de l'intelligible, d'une part, et une réalité de hasard, d'autre part. D'où cette vertu de contrepoison, en quelque sorte, que possède la contingence intrinsèque du lieu muséal à l'égard de l'imaginaire des œuvres. Encore faut-il préciser que si le musée peut concilier ces deux propositions, disons le musée comme lieu, ou plutôt comme non-lieu idéal, et le musée comme instance critique de rappel au réel, c'est qu'il ne s'accomplit dans aucune des deux véritablement. Autrement dit, c'est du fait du caractère structurellement irréalisable et pourtant toujours insistant de son projet dans sa réalité même, qu'il en vient à agir à contre-courant de lui-même, par son envers. Soit parce qu'il se détache complètement d'un lieu de vie, qu'il est d'abord maison ou palais, comme en Italie, soit parce qu'il rend avant tout sensible sa fonction historique de diaspora moderne des œuvres, de dispersion matérielle des peintures, et ce sont là à nouveau des citations de Bonnefoy. Comme ces temples néo-grecs édifiés en Amérique pour recueillir des peintures italiennes. En somme, il est une figure de la négativité dont les imperfections même le sauvent et lui confèrent sa puissance d'éclaircissement dialectique. Encore ce terme devra-t-il être... Enfin, je suggérerais de le transformer un peu. C'est en tant que non-lieu imparfait, lieu vivant, mais vivant malgré lui, qu'il peut se revêtir d'une sagesse paradoxale. Et inversement, c'est lorsqu'il s'affirme autoritairement en adéquation avec son projet idéologique, idéologique à tous les sens du terme, à la fois d'autorité politique et d'ambition théorique, qu'il suscite chez le visiteur déraciné une réaction de rejet, cette fois univoque et non pas ambivalente. Cette pensée par les failles du musée se poursuit tout au long de l'œuvre d'Yves Bonnefoy. En 2008, au point extrême du paradoxe, il va l'appliquer aux aspects les plus apparemment catastrophiques du grand musée médiatique qu'est devenu le Louvre. Lorsqu'il lui reconnaît une valeur, en effet, ce n'est pas parce qu'il fait sa fierté, la richesse de ses collections, la multiplicité des salles, l'enthousiasme du public, mais par sa périphérie, d'une part, ses caves, ses placards à balais, et par le désastre concret qui s'y produit chaque jour sur l'autoroute, c'est à cette occasion qu'il emploie la métaphore, l'autoroute de la Grande Galerie, qui le fait s'effondrer sur soi dans son projet d'accomplissement d'une parfaite idéalité. Le voici alors qui révèle sa soumission au hasard, c'est-à-dire aussi au chaos de la vie, dans une analogie inattendue avec les petits musées provinciaux qu'on évoquait donc auparavant sur la peinture et le lieu. Je cite Bonnefoy, « Le mouvement, le flot, le côté aléatoire, infini du passage des jeunes gens, c'est aussi ce qui confère à ce grand musée ce qui fait le prix des petits, où il n'y a guère que quelques œuvres. Il devient comme eux une épiphanie du hasard. Or justement, la prise de conscience du hasard, de son mystère, c'est ce qui aide le mieux à comprendre le projet des artistes. En cela donc, le Louvre, sous sa forme la plus contemporaine, se perpétue donc comme l'illustration de l'ambivalence qui était déjà formulée 50 ans plus tôt à propos des petits musées italiens ou des musées neufs américains. » Alors, c'est aussi parce que dans le Louvre, le sentiment donc, de cette ambivalence aboutit au paradoxe que, à travers l'immensité de ces salles, un peu de choses finit par surgir, ce peu de choses qu'est tout de même un musée, aussi grand soit-il. C'est à travers ce paradoxe, donc, que permet de se formuler le désir de le quitter, en y substituant, dit Bonnefoy, une façade d'église ou un chemin paysan. Permet aussi de le sentir parallèlement et de manière ambivalente comme un lieu natal, par exemple dans la salle octogonale des Saisons de Poussin. Je cite donc cette phrase, « C'est le débouché d'un couloir que j'ai suivi pendant des années, presque depuis ma naissance, couloir souterrain qui s'élargissait en des points où brillaient des lampes. » À partir de cette dernière phrase, le moment, ce que je souhaiterais faire, c'est resituer ce battement donc dans la pensée du poète, le resituer dans une généalogie personnelle, qui est aussi celle d'un contexte plus large de notre relation à tous avec le musée. Il me semble difficile pour commencer de ne pas ressentir la proximité entre le rêve de ce couloir souterrain où brillaient des lampes et la Nadja de Breton, où apparaît le fantasme de, je cite, « ces hommes qui se laissent enfermer la nuit dans un musée pour pouvoir contempler à leur aise, en temps illicite, un portrait de femme qu'ils éclairent au moyen d'une lampe sourde. » De même, la rapidité bien connue des visites de musées par Yves Bonnefoy, suscitée peut-être par, c'est lui qui le disait, « l'angoisse à tellement d'images », ainsi que son désir d'en sortir pour aller précisément vers un chemin paysan, me semble faire écho à cette remarque du surréalisme et la peinture de Breton. Je cite « Or, je l'avoue, j'ai passé comme un fou dans les salles glissantes des musées. Je n'ai pas été dupe un instant de ce que m'offraient d'inconnu ces murs souterrains et inébranlables. Dehors, la rue disposait pour moi de 1000 plus vrais enchantements. » Dans les deux cas, un double mouvement d'attraction et de répulsion fait du musée un lieu ambivalent, précisément, où la pensée poétique se nourrit de ses propres tensions internes. Mais dans les deux cas également, la réappropriation positive du musée, du fait de ses propres failles, n'advient que sous la forme spectrale du rêve, improbable couloir natal menant à Poussin, dans un cas, ou impossible visite nocturne à un portrait de femme, dans l'autre. L'ambivalence n'est pas la dialectique. Pas davantage, elle n'est réductible à un dualisme où deux positions restent fixes l'une par rapport à l'autre, tandis que chacune prétend à s'assurer l'intégralité de la valeur en annulant l'autre. Et pourtant, de même qu'il y avait une forme d'attraction pour le dialectique commune à Breton et à Bonnefoy, là encore, comme si Bonnefoy voulait échapper par une autre voie au tournoiement de l'ambivalence, il n'a cessé de fournir des preuves de son attrait pour des positions dualistes, précisément, à l'égard du musée, qu'elles s'exercent, ces positions, dans un sens ou dans un autre. D'un côté, il déclare volontiers sa tendresse pour les conservateurs et historiens de l'art qui, immergés dans leur rêve de revivification du passé, vouent un culte aux ressources les plus recherchées du musée. Et de l'autre, il a accordé son amitié et son admiration, on le sait, à au moins deux contempteurs implacables de l'idée du musée. Le premier d'entre eux, c'est Christian d'Autremont, qui envoie à Bonnefoy, de Bruxelles, en 1949, son tract sous le titre que l'on connaît « Et je ne vais dans les musées que pour enlever les muselières » et d'Autremont qui affirme la même année, dans l'enceinte même du Stedelijk Museum d'Amsterdam, son désir, désir qui est à vrai dire celui de ses nouveaux amis du groupe Cobra qu'il a contribué à fonder, son désir de remplacer une fois pour toutes le musée par, je cite, « une place étincelante, criante de rire, pavoisée, que sans toujours le savoir nous avons cherché ensemble, camarades, nous avons arraché au désert, à l'aventure, et qui vous est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouverte. » Lui, d'Autremont, dont Yves Bonnefoy disait qu'il n'était personne que moralement, en tout cas, il n'était prêt à respecter davantage, n'a jamais cessé jusqu'à la fin de sa courte vie de promouvoir moralement, précisément, un art éphémère et sauvage où aurait disparu la frontière entre l'usage et l'amour des objets, frontière entre usage et amour que le musée, quant à lui, pousse à son paroxysme. Quant au second de ces esprits dualistes, nous le connaissons, c'est Georges Dutuis, cet ennemi des images, comme le décrivait Yves Bonnefoy, qui était en même temps, on peut dire, une sorte de muséoclaste, sur un mode étonnamment proche des mots d'Autremont lui-même en 1949, Bonnefoy a décrit en ces termes le rejet par son ami, qui était byzantiniste, comme vous le savez, de l'espace contemplatif et fermé sur lui-même du musée, au profit de l'action festive dans l'espace public. Ce que d'Autremont appelait la place étincelante, criante de rire, pavoisée. Bonnefoy dit « Dutuis rêvait d'une fête, là où ne règnent plus que des rassemblements sans regard, des encombrements désertiques. » D'Autremont parlait également donc de ce lieu, de ces œuvres arrachées au désert. Et il rêva de l'art comme l'essence possible de cette fête. Quant à Dutuis lui-même, en cette même année 1949, il écrivait « Nous avons bien moins besoin de ces étourdissants chefs-d'œuvre que d'œuvres ne sortant pas de la vie quotidienne et susceptibles de nous aider à vivre au lieu d'exiger de nous l'impossible. » Tout se passe comme si, en somme, ces positions dualistes, quelles qu'elles soient, exerçaient leur attrait sur le poète dans la mesure où elles suggéraient des voies pour se dégager du cercle infini de l'ambivalence. Il n'empêche que Bonnefoy a toujours gardé ses distances avec Cobra, en dépit de son amitié pour d'Autremont, qu'il n'a pas préféré l'ornementation byzantine aux peintures du Quattrocento, comme le faisait Georges Dutuis, en dépit de son éloge de l'ornement byzantin dans les tombeaux de Ravenne, et qu'il n'a pas davantage, inversement, écrit ce fameux « Récit des musées du monde » qu'il promettait en 1960 et qu'il aurait rapproché des plus fidèles amoureux des musées d'Occident et d'ailleurs. En dépit des difficultés à s'y tenir, l'installation dans l'ambivalence, autrement dit, revêt évidemment pour lui le caractère moins d'une fatalité que d'un impératif de vérité, à la fois poétique et morale, celui d'une méditation sans fin sur la puissance inspiratrice des processus d'irréalisation à l'œuvre dans et par les musées. Je conclurai donc en suggérant que cet impératif de vérité ne relève pas seulement de la vérité poétique pour Bonnefoy, mais qu'il s'accorde avec le sens historique de l'institution muséale dans les sociétés modernes depuis la fin du XVIIIe siècle. Dès son origine, en effet, cet emblème par excellence de la modernité révolutionnaire, affiche une volonté d'arraisonnement du temps que rend sensible sa configuration spatiale. On progresse dans un temps ordonné en périodes au fur et à mesure qu'on avance dans un espace régulé en salle. Cette rationalisation spatiale du temps, cependant, n'en est venue à incarner l'idéal de la modernité que sous une forme bien particulière, non pas celle du musée d'histoire ou des sciences ou que sais-je, mais celle du musée d'art. Or, l'expérience de l'œuvre d'art, à savoir la faculté d'entourer les choses d'une présence créatrice, installe d'emblée la conscience dans un temps tout autre, un temps qui n'est pas rationalisé, un temps qualitatif, un temps subjectif, foisonnant, qui s'affranchit des contraintes de la narrativité historique telle qu'elle peut apparaître dans les salles vouées aux périodes dans les grands musées universels. L'effet de présence qui en résulte constitue le socle du culte de l'art dont la modernité a également fait son foyer symbolique comme un succès d'année du sacré. Par conséquent, ce que le musée emblématise, le musée moderne, ce n'est pas seulement la conquête du temps subjectif de la création par le temps objectif de la raison, c'est plutôt l'épreuve indéfiniment critique des renversements entre deux temporalités hétérogènes et également valoriser l'une et l'autre. En célébrant le musée d'art, en le plaçant au centre de ces édifices symboliques de référence, notre temps célèbre un dispositif intrinsèquement contradictoire, au sein duquel se fabriquent l'un par l'autre et se renversent l'un dans l'autre historicisme et anachronisme, chronologie linéaire et court-circuit temporel, temps objectif et temps subjectif. Il organise le déchirement et l'engendrement réciproque entre un monde d'objets arrangé selon une taxinomie temporelle surcontrôlée et l'œuvre d'art approchée comme l'évidence d'une respiration outre-temps. Autant dire que l'ambivalence est son régime natif au musée comme tel, au musée inventé par la Révolution, entre effet de présence créatrice et effet de distance historico-analytique, entre représentation mélancolique du passé et espoir d'un déchirement soudain de ses voiles. Cette temporalité emmêlée, c'est ce dont le musée a constitué l'allégorie, lui permettant par là d'accéder à la conscience de soi en tant que condition moderne. Et cette condition, à son tour, à travers sa relation donc avec le musée, a pu se comprendre et se vivre comme un état de crise, oxymore à vrai dire, la notion d'état de crise, pour une situation où ce qui devrait déboucher sur un dénouement devient un destin, un mode continu d'existence plutôt qu'un nœud événementiel. Une crise, c'est un nœud qu'on dénoue ou qu'on tranche. Un état de crise, c'est une camisole de force dont les nœuds se resserrent à chaque mouvement que l'on fait pour tenter de les dénouer. Peut-on relier à la résonance profonde de cet état de crise l'alliance de conscience critique et de mélancolie, au fond, qui caractérise la relation d'Yves Bonnefoy avec le musée? C'est l'hypothèse que je proposerais, faisant ainsi à cette condition, disons, de sa poétique du musée, une expression intimement contemporaine de la vérité de la modernité dans l'un, donc le musée, dans l'un de ses foyers pour nous le plus essentiel. Et je vous remercie.
Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.